Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Vendredi 30 septembre,
l'info sur RMC.
Excellent réveil à vous si vous nous rejoignez sur RMC et RMC Story. Il est 7h et c'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le coup de force de Vladimir Poutine aujourd'hui, il officialisera l'annexion de 4 régions ukrainiennes lors d'une grande cérémonie à Moscou. Le témoignage d'une mère et de sa fille agressée au couteau, c'était samedi dernier chez elle en Seine-Saint-Denis. Et puis le succès annoncé pour le jeu vidéo FIFA 23, peu de différence par rapport à l'année dernière malgré tout. Des fans au taquet, prêts à mettre le prix, vous le verrez.
En Ukraine, Vladimir Poutine veut marquer fermement son territoire.
Hier, signature de 2 décrets reconnaissant l'indépendance des régions de Zaporijjia et de Kherson. Les 2 autres, Louhansk, Donetsk, vont suivre. Officialisation prévue à 14h aujourd'hui lors d'un discours du président russe à Moscou. Toute une mise en scène a été prévue, Nicolas Repère.
Une grande estrade aux couleurs de la Russie a été montée sur la place rouge. Des portiques de sécurité finissent d'être déployés. Pour l'annonce de l'annexion des territoires de l'Est de l'Ukraine, il faut s'attendre à une cérémonie en grande pompe, prédit le politologue Olivier Védrine, spécialiste du monde russe.
On va avoir quelque chose digne de l'URSS, avec des beaux défilés, des banderoles, des musiciens, des chanteurs. On va avoir un discours très violent qui va pointer du doigt l'Occident, l'OTAN. C'est une grande messe à la gloire de Poutine.
Avec la reconnaissance par Moscou de ses référendums, Vladimir Poutine veut parler au peuple russe, analyse Yves Doutriot, ancien diplomate français à l'ONU.
Pour lui, c'est une occasion d'occulter les défaites militaires récentes qu'il a dû subir, que son armée a dû subir. Donc pour faire oublier cela auprès du peuple russe, il explique qu'il a une victoire, qu'il a trouvé, rempli ses buts de guerre. Reste à savoir si ça va convaincre tous les Russes.
L'Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont promis de nouvelles sanctions, notamment économiques, contre Moscou.
Le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit une résolution pour condamner les référendums d'annexion. Jamais nous ne reconnaîtrons les résultats, a martelé le président américain hier, Joe Biden, qui redoute un bilan humain très lourd après le passage de l'ouragan Ian en Floride. On compte déjà 12 morts ce matin sur les images des villes sous l'eau, des maisons dévastées. C'est impressionnant, on parle de dégâts historiques. Écoutez ce matin le témoignage de James.
Je suis resté aussi longtemps que j'ai pu, jusqu'à ce que j'ai peur pour ma vie. Vous voyez les choses commencer à s'envoler, d'abord le toit, puis les murs qui s'effondrent. J'ai littéralement vu ma maison s'envoler, avec tout à l'intérieur, juste sous mes yeux. Là, je suis venu récupérer ce que je pouvais.
James, habitant de Fort Myers en Floride, et l'état de catastrophe naturelle a été décrété dans l'état américain. L'ouragan, lui, n'a pas fini sa route dévastatrice. Ian, de nouveau renforcé, se dirige maintenant vers le nord-est du pays. Nous, il est 7h03 sur RMC. Vous allez entendre maintenant le témoignage d'une mère et de sa fille agressée chez elle. Au couteau, on est à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Une agression qui aurait eu lieu après une altercation avec des dealers qui sont en bas de chez elle. Les deux victimes nous racontent le choc et la peur. La semaine dernière, leur vie a basculé, Lucille Pascanet.
21h, samedi soir, Naïma entend la sonnette de son appartement. Cette mère de famille attend une livraison de nourriture pour le dîner. Alors elle ouvre sa porte sans se méfier.
J'étais aspergée directement avec la bombe climogène. Juste après, j'ai reçu des coups. Je suis tombée par terre. Et là, un de ces individus qui me donne un coup de couteau.
Sa fille de 14 ans, Louane, se précipite.
J'ai entendu le cri de ma mère. En essayant de la protéger, je me suis baissée vers elle. On m'a donné aussi un coup sur la fesse droite.
3 points de suture pour Louane, une quinzaine pour sa mère et des ecchymoses sur les bras. Selon elle, les agresseurs seraient des dealers du quartier avec qui elles sont en conflit et qui auraient voulu les intimider.
Ils nous ont montré comme quoi c'était eux qui faisaient la loi.
Depuis, la famille vit dans la peur d'être prise à partie. Elle vient d'obtenir un relogement d'urgence.
Je ne peux pas sortir acheter du pain comme une personne normale sans avoir peur. Quand je sors du collège, je regarde bien s'il n'y a pas un petit groupe de jeunes qui m'attendent. S'ils sont capables de me poignarder, moi et ma mère, ils sont capables de faire pire.
La présence policière a été renforcée dans ce quartier de Villetaneuse. L'enquête est en cours. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé.
Lucille Pasquenet pour RMC. Hier, c'était la première mobilisation sociale de la rentrée. Ces chiffres à vous donner, 250 000 manifestants selon la CGT, à peine 120 000 selon le ministère de l'Intérieur. Défilé dans lequel s'est invité la réforme des retraites. Le gouvernement se donne 3 mois pour consulter. L'âge de départ sera bien fixé à 65 ans d'ici 2031. De quoi motiver ces manifestants parisiens ? Très inquiet, Victor Johannin les a rencontrés pour RMC.
Travailler jusqu'à 65 ans, Elvis ne l'imagine pas une seconde.
Je pourrais pas, je serais lessivé, c'est impossible, impossible.
Ce cheminot avait fait grève pendant un mois contre la retraite à points il y a 3 ans. Il est prêt à recommencer.
Plus que jamais, on n'en veut pas de ces réformes. Ça va augmenter le chômage, mais pas le nombre de gens qui vont travailler au-delà, quoi. Faut qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux dans la rue.
Le gouvernement a finalement annoncé qu'il allait concerter avant de réformer les retraites, mais les manifestants, comme Aurélien, n'y croient pas.
C'est de la mise en scène, hein, c'est du simulacre de concertation. Que ce soit à amendement 49.3, projet de loi à part. Le message, c'est que la réforme des retraites aujourd'hui, telle qu'elle nous est proposée, en tout cas, on n'en veut pas.
Le cortège est principalement rempli de militants syndicaux, mais Paul Arthur, enseignant en Seine-Saint-Denis, est persuadé que la réforme des retraites va mobiliser au-delà.
Les retraites, en fait, ça fait 25-30 ans que c'est les batailles sociales centrales en France aujourd'hui, et les gens, ils savent que c'est important. Et ils ont montré plein de fois qu'ils étaient là et je pense qu'ils seront là.
Tous les syndicats se retrouveront lundi pour discuter de l'idée d'une nouvelle date d'action, ce qui élargirait le mouvement de protestation.
Des Français qui, quand ils ne manifestent pas, font des bébés. Une première depuis 6 ans, un rebond de 0,9% en 2021. C'est l'INSEE qui donne ces chiffres. L'effet déconfinement, très clairement, ça fait 24 bébés de plus par jour.
Autant... C'est précis. Hein.
Oh là là. C'est très précis.
Extraordinaire.
C'est 24 petites naissances par jour. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, autant de nouveaux fans de FIFA, l'édition 2023 en vente aujourd'hui. C'est l'un des plus gros succès culturels en France. 1,5 million de jeux vidéo sont partis l'année dernière quand même. Et la nouvelle édition devrait suivre le même chemin. Et pourtant, entre ces deux versions, pas d'énormes différences, Kevin Gasser.
Chaque année, c'est un rituel pour Noah.
Depuis 2 semaines, il est précommandé.
Cet étudiant de 18 ans s'est même procuré une version à 100 euros pour profiter du jeu quelques jours en avance.
Je suis un internel insatisfait. À chaque fois, il me manque un truc sur le jeu. Et chaque année, en soi, il est de plus en plus réaliste.
Alexandre, 22 ans, sera en possession aujourd'hui de la version standard à 70 euros. Un investissement obligatoire pour ce fan de la franchise.
Je les ai tous depuis FIFA 12, donc depuis que je suis petit. C'est l'un des seuls plaisirs que je me fais chaque année. C'est l'un de mes seuls passe-temps.
Autre stratégie pour Théo.
Je dirais que moi, je suis plutôt un acheteur de fin d'année.
Et attendre que le prix baisse, mais Théo a une technique pour tout de même jouer à FIFA.
Je suis un peu malin, moi, je vais jouer chez les potes qui ont déjà le jeu, quoi, qui ont pu mettre des sous dedans.
Un incontournable des moments entre amis, sans véritable concurrence, c'est ce qui rend ce jeu si populaire, explique Laurent Michaud, économiste des jeux vidéo.
Chaque rentrée, on va nous parler du dernier iPhone. Et bien là, chaque année, à cette période de l'année-là, le FIFA de l'année en cours va sortir. C'est un jeu qui est très ancien, je pense qu'il a presque 30 ans. C'est un jeu qui est le jeu de référence de foot.
Et petite révolution pour cet opus, deux adversaires possédant chacun une console différente pourront désormais s'affronter en ligne.
FIFA 23 testé et approuvé par certains dans l'équipe d'Apolline Matin.
On va balancer Benjamin Spadja, le rédacteur en chef, qui a joué toute la nuit, qui a des coulisses. Petits yeux. Voilà.
On et le voit plus joué. Beaucoup, Benjamin.
C'est vrai.
Bah Charles, vous allez vous rattraper un peu ce week-end, non ?
J'y compte bien. Et bah, je suis sûr que chez Apolline aussi.
Bah,
il y a des ados à la maison.
Voilà, il y a des ados à la maison et FIFA, ça y va. Il est 7h08 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC à vos côtés, avec vous Johanna Chabas. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Ce matin, vous nous parlez d'Aline. Aline, elle est allée dans un salon d'épilation. Et en fait, elle en est ressortie avec des très importantes brûlures.
Oui, Aline est allée chez Depiltech pour une épilation définitive des jambes avec une technique de lumière pulsée. Une technique où de la lumière est envoyée à forte intensité sur le poil et le détruit. L'année dernière, Aline débourse 2000 euros pour un forfait de plusieurs séances. Mais dès le premier rendez-vous, ses jambes sont brûlées au deuxième degré.
Je rentre chez moi et ça me brûle fort. Je ne suis pas du tout douillette. Seulement le contact de l'eau sous la douche, le contact des draps la nuit me faisait pleurer tellement j'avais vraiment mal. J'ai des taches aujourd'hui derrière les mollets qui m'ont vraiment affaibli psychologiquement, qui m'ont créé un réel complexe. Donc je ne veux plus montrer mes jambes. Vraiment psychologiquement, j'ai vraiment été vraiment touchée.
Suite à notre intervention, l'entreprise a entamé une négociation avec notre auditrice et a accepté de rembourser la première séance, soit 140 euros. Mais pour le reste, les 2000 euros restants, Dépiltech propose...
2000 euros, ça coûte ?
Eh oui, c'est le forfait de plusieurs séances pour réussir à faire l'épilation. Et donc pour ces 2000 euros, Dépiltech propose un avoir pour un nouveau forfait d'épilation. Comprenez, il faudrait qu'Aline retourne dans un centre pour se refaire épiler. Donc évidemment, elle a refusé et les négociations se poursuivent.
Et les négociations poursuivent, et sauf que ça s'arrête pas là, parce que Aline, elle est pas la seule finalement à avoir été blessée. Il y a des clientes lésées qui veulent aujourd'hui des dommages et intérêts.
Oui, elle s'organise grâce à un groupe Facebook Dépiltech Arnaque qui réunit plus de 4000 personnes. Elles échangent sur leurs histoires et souhaitent monter une action groupée contre l'entreprise. Aurélie, par exemple, a fait confiance à Dépiltech pour se faire épiler les aisselles il y a 2 ans, et son témoignage fait froid dans le dos. 2 jours après la première séance, elle a développé une thrombose au bras droit. 2 caillots de sang se sont logés dans une veine bloquant la circulation. Pour ces médecins, aucun doute, l'épilation à la lumière pulsée en est la cause.
À l'heure actuelle, j'ai toujours mal, je prends des médicaments pour la douleur. Ça dure du matin au soir, la nuit, je tends mon bras au maximum pour le détendre au maximum. Quand je vois les médecins autour de moi, je leur dis « mais arrachez-moi le bras !» Enfin voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser les choses continuer. Qu'ils au moins fassent des excuses et trouvent des solutions pour essayer de nous soulager. Qu'ils assument leurs actes aussi et leurs erreurs, ça serait déjà un bon point.
Alors je précise que ces clientes, elles ne condamnent pas la lumière pulsée en soi, c'est qu'elles appellent aussi à plus de régulation, parce que pour l'instant c'est ouvert au centre esthétique, et elles demandent à ce que peut-être ce soit supervisé par un médecin par exemple. Et surtout, ces femmes accompagnées de l'avocate Maître Emma Leotti, il y a 8 personnes déjà qui sont en train d'étudier les différents recours. Elles pourraient être plus d'ici les prochains jours. Elles vont exiger de la justice la désignation d'un expert médical afin de répertorier leurs blessures, dans l'objectif évidemment d'obtenir des dommages et intérêts. Nous avons contacté Dépiltech. Selon la directrice générale de l'entreprise, les blessures lors d'actes épilatoires sont extrêmement rares et ce sont des cas qui ont toujours été pris au sérieux et pris en charge par leur service.
Et si comme Aline, vous voulez contacter l'équipe d'RMC S'engage pour vous, vous connaissez l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Il est 7h11 sur RMC justement.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le témoin du jour. S'il y a des économies à faire, ce n'est pas en banlieue. Voilà ce que dit ma prochaine invitée. Elle s'appelle Catherine Arénoux. Elle est maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines et elle refuse de devoir choisir entre sécurité et économie d'énergie. Elle nous explique tout dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC. Sobriété ou sécurité, faut-il choisir ?
Le témoin RMC.
Et on en parle avec vous, Catherine Arénoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Chanteloup-les-Vignes, c'est dans les Yvelines, et vous vouliez ce matin témoigner aussi en tant que maire de cette ville où il y a, vous êtes souvent confronté à des questions d'insécurité. Faire des économies d'énergie comme le demande le gouvernement, pourquoi pas, mais le problème c'est que vous alertez ce matin, s'il faut plonger la ville dans le noir, s'il faut éteindre les lampadaires, c'est non.
Non, ça n'est même pas imaginable. Alors, faire des économies, je vais vous dire, on n'a pas attendu le gouvernement, puisqu'il va falloir bien qu'on finisse nos budgets. Dans des villes populaires comme les miennes, qui ont 50% de logement social, avec une densité de logement social sur un quartier, il est évident qu'on est une ville pauvre, mais avec des habitants pauvres. Notre première obligation, c'est d'essayer de faire des économies pour pouvoir dégager un peu de moyens pour accompagner les habitants. Alors, évidemment, tous les maires ont pensé d'abord à des économies d'énergie électrique, d'énergie de chauffage. Et les énergies électriques, ça ne peut pas se traiter de la même façon selon qu'on est une petite commune de province ou une ville très dense comme la nôtre, avec des populations qui marchent à pied dans le quartier, avec une gare à proximité et avec ce sentiment d'insécurité, mais qui est une véritable insécurité quand tout le quartier est plongé dans le noir, ce qui nous est déjà arrivé pour bien d'autres raisons. Sans compter qu'il faut quand même imaginer qu'on a besoin de l'accompagnement des pompiers, de la police régulièrement, et que les forces de sécurité et les forces d'accompagnement des publics aussi, les ambulances, doivent pouvoir fonctionner dans une ambiance sécuritaire. L'ambiance sécuritaire, c'est quand même...
Ce que vous appelez une ambiance sécuritaire, c'est-à-dire que quand il fait noir, ben on va le dire autrement, ça devient un coupe-gorge, quoi.
Bah, c'est-à-dire que quand vous voyez pas, quand vous êtes piéton, parce que c'est des villes aussi qui sont relativement piétonnes, enfin assez piétonnes, quand vous êtes piéton, vous n'imaginez pas être obligé de vous balader avec votre téléphone portable pour arriver à voir où vous êtes. Quand voilà, il y a des rues qui, où on peut se le permettre, il y a des pollutions lumineuses qui sont des quelquefois des transferts de lumière qu'on peut faire à certains endroits. Dans nos quartiers très denses, avec des bâtiments qui rajoutent, vous savez, de l'ombre naturelle, voilà, cette ambiance noire qui est beaucoup plus importante dans une ambiance comme ça, immeuble, je peux vous assurer, nous l'avons vécu, que ça n'est pas du tout sécuritaire, et d'ailleurs, ni les habitants, ni les forces de sécurité, ni les pompiers ne nous le demandent, bien au contraire.
Madame le maire, ça veut dire que vous nous dites ce matin, s'il s'agit d'éteindre l'éclairage public, c'est non. Vous n'éteindrez pas, l'éclairage public à Chanteloup-les-Vignes.
Non, sur ces quartiers-là, ça n'est pas possible, ça n'est même pas envisageable. Il va falloir avoir beaucoup d'intelligence pour trouver des économies d'énergie ailleurs, pour baisser des intensités sur certains endroits moins fréquentés, mais pas à l'endroit où la population vit à pied pour la plupart du temps, où les mamans rentrent à minuit de leur travail sur Roissy. Enfin, je n'imagine pas, mais je sais en plus que personne ne me le réclamera, bien au contraire.
Pardon, Madame le maire, mais vous avez mentionné à plusieurs reprises le fait que ça vous était déjà arrivé. Pourquoi les quartiers avaient été plongés dans le noir ?
Non, on avait eu des problèmes de casse d'équipement public, enfin d'éclairage public.
C'était du sabotage, c'était de la casse.
Voilà, qui avait été très compliqué à réparer. Et donc, nous l'avons vécu et nous avons bien vu la désespérance aussi des habitants qui n'arrivaient plus à circuler. Vous savez, le noir, c'est 17h, 18h en hiver. C'est des enfants qui reviennent de l'école, du centre de loisirs et tout ça. Non, c'est une ambiance qui n'est pas du tout satisfaisante et qui est insécuritaire. Les économies d'énergie,
vous les ferez où du coup ?
seront faites ailleurs, mais elles ne peuvent pas être faites dans ces quartiers.
Mais ailleurs, vous savez pas encore où. Vous allez tenter de trouver des solutions.
Baisser l'intensité de certains quartiers moins fréquentés, baisser l'intensité lumineuse, baisser l'intensité dans nos équipements publics, éventuellement fermer des équipements publics à certaines horaires pour pouvoir diminuer à la fois le chauffage et être sûr de baisser la consommation lumineuse. Non, ça va être de la dentelle, mais il va falloir, puisque en fait nous n'avons pas de choix, nos budgets doivent être équilibrés et en plus on a des populations, enfin, sur mon quartier, 35% vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut aussi accompagner ces publics qui vont avoir, eux aussi, des augmentations considérables d'énergie et de chauffage.
Merci beaucoup, Madame le maire, d'être venue alerter ce matin sur RMC. Catherine Arénou, maire donc de Chanteloup-les-Vignes, et vous nous le redites ce matin, vous n'éteindrez pas l'éclairage public dans votre commune. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Vous continuez à nous appeler au 32-16, c'est la fin du mois. Aujourd'hui, plus 10% sur les prix alimentaires dans les supermarchés. Comment faites-vous ? Est-ce que vous avez réussi à boucler le mois ? Venez donc témoigner au 32-16. Et puis, 8h10, notez-le dès à présent, je vous attends également autour du parti pris. Vous utilisez peut-être vos tickets restaurant pour faire vos courses et non pas uniquement pour aller au restaurant. Eh bien, mon invité, vous le verrez, un restaurateur, trouve que c'est scandaleux et que ça ne répond pas à sa vocation première. Venez donc l'interpeller au 32-16. Et puis, dans un instant, il y aura Emmanuel Le Chypre pour l'économie et Arnaud Demange pour rire.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
L'indiscret RMC, le rendez-vous du service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Hélène, Yannick Jadot, le député européen Europe Écologie Les Verts, sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Et vous nous dites ce matin que l'ex-candidat écologiste à la présidentielle a désormais des ambitions parlementaire en France.
Et si Yannick Jadot était sénateur ? Oui, il s'y intéresse, nous confirme un de ses proches. Ce serait mentir de dire qu'il n'y pense pas, nous dit un autre clairement. La piste est sur la table, comme on dit. Yannick Jadot, aujourd'hui, il est député européen, mais son mandat prend fin en 2024, son troisième mandat. Problème chez Europe Écologie Les Verts, la règle veut qu'on ne se représente pas une quatrième fois. Une dérogation n'est pas impossible, d'autant qu'il se sent très à l'aise dans son siège à Strasbourg. Mais il a mûri sur une idée, nous dit un fidèle, il a envie de s'exprimer dans le débat public français. Entendez un peu plus, alors pourquoi pas dans un fauteuil au Sénat ?
Oui, alors dans quelle circonscription ?
Preuve qu'il y songe sérieusement, dans son cercle proche, on commence déjà à lorgner sur certains territoires gagnables. Beaucoup parlent déjà d'un siège à Paris, les écologistes pourraient en décrocher 3 dans la capitale. Ce qu'un de ses proches ne lui conseille pas franchement, il a fait sa campagne présidentielle sur le thème des territoires, alors dit-il, ce n'est pas pour s'enfermer à Paris, les sénatoriales
c'est l'année prochaine. Mais Yannick Jadot sur RMC, c'est tout à l'heure, à 8h30.
Et je lui poserai évidemment la question. Les indiscrets du service politique tous les jours à 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le taux maximal auquel les banques peuvent prêter, Emmanuel, prêter pour un achat immobilier, va nettement remonter le 1er octobre. Et c'est une grosse bouffée d'oxygène pour le marché de l'immobilier.
Eh bien oui, parce que figurez-vous que le marché de l'immobilier était en train d'asphyxier à cause du plafond trop bas de ce fameux taux d'usure. Aujourd'hui, ce taux maximal auquel les banques peuvent prêter, il est fixé par la Banque de France à 2,6%. C'est une formule qui est revue tous les 3 mois. Et évidemment, plus il est haut, plus les banques peuvent accorder de crédit. Or, ces dernières semaines, on a eu une remontée très forte des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Ce qui fait que les banques, elles étaient obligées aussi de remonter les taux d'intérêt qu'elles proposaient à leurs clients pour un achat immobilier. Et qu'une fois que vous avez rajouté le coût de l'assurance, les frais bancaires, vous vous retrouviez avec une proposition de crédit qui était supérieure à ce taux maximal autorisé par la Banque de France. Résultat, nous disent les courtiers, il y avait cet été jusqu'à 45% de dossiers de crédit refusés par les banques, alors qu'on était seulement à 15% en début d'année.
Et donc, c'est pour ça que la Banque de France a décidé de remonter ce taux d'usure d'un demi-point. Est-ce qu'il va redevenir plus facile, et c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, de pouvoir envisager d'obtenir un crédit immobilier ?
Alors, effectivement, on va passer de 2,6% à peu près 3,1%. Et donc, évidemment, pour quelques semaines, voire pour quelques mois, cette hausse va permettre de débloquer un certain nombre de dossiers de crédit en cours et d'appliquer les taux proposés par les banques actuellement. Il faut savoir qu'on est entre 1,8 et 2,4% selon les durées de crédit. Mais après, tout dépend de l'évolution des taux sur les marchés financiers. S'ils continuent à remonter, on rebutera à nouveau sur ce plafond parce que, en fait, le calcul de la Banque de France, il a beaucoup de retard. Il est basé sur les taux d'intérêt d'il y a plusieurs mois. C'est pour ça que les professionnels de l'immobilier, les courtiers notamment, demandent à ce que la formule de calcul soit revue pour qu'elle soit beaucoup plus réactive.
Bon, alors ça a été remonté, mais la formule de calcul n'a toujours pas été changée. Il est 7h25 et on accueille Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demange Pirate, le 32-16.
Bonjour
Arnaud Demange qui pirate le 32-16. Bonjour cher Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, vous êtes passé au standard, ils vous l'ont dit, c'est le problème du crack à Paris. Les riverains du square occupé par les consommateurs de crack n'en peuvent plus. Oui. Et ils ont manifesté cette semaine, depuis un an, rien n'a été fait.
Oui, pas mal de messages de riverains. Joseph qui nous dit, oui c'est vrai, on a un problème de crack à Paris. Et en même temps, quand on voit l'état de Paris avec les travaux, les bouchons, les rats, enfin les surmulots, les pigeons, les détritus, pour supporter ça, c'est un peu normal qu'on ait envie de se droguer.
C'est évident.
Et Evelyne corrobore exactement, il y a des travaux partout. Anne Hidalgo, elle défonce Paris, du coup les Parisiens se défoncent aussi et c'est logique.
Ça rime.
Fatima, les habitants en ont marre de voir des drogués marcher au ralenti dans les rues. Déjà qu'à Paris, les voitures roulent à 2 à l'heure. Si maintenant les piétons font pareil, ça devient insupportable. Alors, la mairie de Paris a quand même réagi. Anne Hidalgo nous a appelé. Ne soyons pas mauvaise langue. La mairie a bien vu que les usagers du crack dégradaient les rues du 19e. Alors, pour pas que ça se voie, j'ai décidé de dégrader les rues de tous les autres arrondissements. Et vous voyez, elle tient ses promesses, Anne Hidalgo. On peut pas lui enlever ça. Voilà, à chaque problème, une solution. Allez, à tout à l'heure.
Merci, Madame Hidalgo, et merci, Arnaud Demange. Arnaud, on vous retrouve tout à l'heure, 8h20. À tout à l'heure. Il est 7h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil, très belle matinée à vous tous. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On regarde le compte en banque ce matin. Le mois de septembre s'achève avec des records d'inflation à près de 10% pour les produits alimentaires. Les Républicains sous pression, Emmanuel Macron menace de dissoudre l'Assemblée en cas de motion de censure pour sa réforme des retraites, les LR dans le viseur. Et la fronde qui s'organise, vous entendrez qu'une petite ville près de Toulouse s'oppose à l'arrivée de 120 migrants.
Nous sommes le 30 septembre, le mois s'achève dans le rouge pour beaucoup de Français.
Forcément, avec des records d'inflation à 9,75% depuis un an pour les produits alimentaires. 30% d'augmentation pour la viande, pour les surgelés, pour les coquillettes aussi. Des caddies moins remplis, tout ça c'est le cabinet Iri France qui nous le dit. Et ça se vérifie en rayon, Cyprien Pézeril pour RMC.
Quelques articles au fond du chariot de Pierre.
Le camembert,
Je l'ai payé 1,75. Avant, il était à 1,35. La viande, c'est caché, 3,95. Avant, on l'a payé dans les 3 euros.
Des centimes ici et là qui, au final, font grimper la note.
Normalement, je paye 30 euros. Là, j'ai payé 49. Et là, j'ai des courses pour même pas deux jours. Hein. Je suis déjà à découvert de 180 euros.
Sur le parking, Marie aussi range ses courses.
Je prends de plus en plus de sous-marques.
Alors, elle fait aussi la chasse aux promos, réduit les quantités. Malgré ces 2000 euros nets de salaire.
Ça fait longtemps que je travaille et en fin de compte, j'ai l'impression de me retrouver comme quelqu'un qui est obligé de faire attention à tout. On perd cette insouciance, c'était une joie d'aller remplir notre caddie. Maintenant, on repart, on rit moins quoi, quand on sort.
Les Français qui font donc de plus en plus attention et surtout de plus en plus tôt dans le mois. Voilà le constat de Rodolphe Bonas, spécialiste de la consommation.
Cette fin de mois, hein, qui était se situe à peu près au 25 du mois, eh bien là, elle démarre à peu près au 20 du mois. Certains consommateurs vont attendre finalement le début du mois prochain pour pouvoir racheter la boucherie ou encore l'hygiène.
Et selon cet expert, l'augmentation des prix va se poursuivre au moins jusqu'au début de l'année prochaine.
Et face à l'inflation, les Français veulent de meilleurs salaires. Ils étaient entre 120 000 et 250 000, selon les sources à le dire, hier dans la rue pour une première journée de mobilisation syndicale. Il y en aura d'autres, hein, promet la CGT, avec en toile de fond, en plus, la réforme des retraites. 65 ans, début d'année prochaine, concertation à l'automne, voilà, on connaît le programme. Et comme il n'a pas la majorité à l'Assemblée, Emmanuel Macron met la pression en menaçant de dissoudre cette Assemblée en cas de motion de censure de la part de l'opposition. Une menace à peine voilé aux Républicains pour qu'ils votent la réforme. C'est ce que nous dit Sébastien Krebs du service politique à RMC.
La menace a été moyennement appréciée au sein de la droite. Chantage, manque de respect pour le Parlement et même caprice, dénoncent des élus. Pour autant, les Républicains savent qu'ils n'auraient rien à gagner à retourner aux urnes et de fait, ils n'ont jamais envisagé de voter une motion de censure. Au contraire, l'annonce de cette concertation, d'un débat plus long et d'une loi dédiée aux retraites après Noël, a tout pour les satisfaire. Cette formule nous convient, glisse même une députée LR qui se dit prête à voter le texte si les discussions sont constructives, comme en juillet sur le pouvoir d'achat. Dans la majorité, on espère ainsi éviter le blocage. Si les Républicains sont cohérents, alors ils soutiendront la réforme, prédit un macroniste qui rappelle que Valérie Pécresse a fait campagne pour les 65 ans. Mais les Républicains y mettent des conditions. Ils attendent des avancées sur la pénibilité, sur les carrières longues et la suppression des régimes spéciaux.
Et les sujets de tension sont vraiment nombreux, comme à Senlis, vous le disiez, petite ville dans la région de Toulouse qui refuse catégoriquement d'accueillir 120 migrants dans une ancienne maison de retraite. Une fronde est en train de s'organiser. Le maire appelle carrément au rassemblement dans cette ville. Ce sera en fin de journée, 18h, comme nous le dit Jean-Wilfried Forquet sur place pour RMC.
Depuis quelques jours, l'arrivée de migrants inquiète de nombreux habitants, comme Guy.
Ça fait peur, oui. Ça fait peur d'avoir des gens qui viennent de toutes les communautés, est-ce qu'ils vont s'insérer ?
Le projet prévoit l'accueil d'environ 120 migrants dans l'ancienne maison de retraite, ce qui est beaucoup trop selon le maire Serge Deuillet. Il affirme qu'il a été prévenu il y a quelques semaines à peine par la préfecture.
Nous avons demandé depuis le début de réduire la voilure pour accueillir ces gens-là dans des bonnes conditions. Là-dessus, nous n'avons pas été entendus, donc il est temps maintenant que la préfecture aussi vienne expliquer les choses. Et puis nous, on fait face aux demandes des Saint-Lysiens.
Cela fait plus d'un an que le maire est au courant, rectifie la sous-préfète de Muret, Cécile Langlais, qui se veut rassurante.
Je crois qu'il faut vraiment dédramatiser le sujet. Hein. On est vraiment sur des personnes qui sont vraiment sur un projet volontaire de retour chez eux, donc qui seront accompagnées, qui sont là sur un très court temps de séjour.
Des élus du secteur, comme la députée macroniste Monique Iborra, regrettent que le maire appelle à un rassemblement à 18h, une mobilisation pour ou contre les migrants, selon elle, qui pourrait faire le jeu de l'extrême droite.
Il est 7h34 sur RMC et tous les regards seront braqués cet après-midi, 14h précisément, vers la Russie. Vladimir Poutine va prendre la parole sur la place Rouge à Moscou, une estrade d'ailleurs déjà installée pour officialiser l'annexion de 4 régions d'Ukraine. Ça se fait dans la foulée des référendums. Des décrets sont déjà signés d'ailleurs et Vladimir Poutine a déjà donné le ton hier soir dans une allocution.
Un ordre mondial plus juste est en train de naître sous nos yeux. Cela ne se fait pas sans difficulté. Le bloc de l'Ouest provoque de nouveaux problèmes, de nouvelles crises en s'accrochant au passé et en essayant de mener une politique dictatoriale. Poursuivant leurs objectifs, nos ennemis géopolitiques, nos adversaires sont prêts à mettre en danger n'importe qui, n'importe quel pays, à le transformer en épicentre d'une crise, à provoquer une révolution de couleurs et à déclencher un bain de sang. C'est arrivé plus d'une fois déjà.
Voilà, message adressé aux Occidentaux et aux Américains, particulièrement les Américains qui ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais ces référendums. Jamais, Joe Biden l'a répété trois fois cette nuit dans un discours. Aux États-Unis, ce matin, l'ouragan Yann remonte par la côte, la Géorgie, la Caroline du Sud, désormais menacée après avoir fait au moins 12 morts en Floride. Le Brésil se prépare à voter ce week-end pour le premier tour de la présidentielle avec un match là-bas entre la gauche du revenant Lula et l'ultra-droite du sortant Bolsonaro. Ils débattaient d'ailleurs hier soir tous les deux à la télé et ce matin on sait qui soutient Neymar. Voilà, vidéo de Neymar qui danse sur cette chanson de campagne de Bolsonaro. Il l'avait déjà soutenu d'ailleurs, Neymar. C'était il y a 4 ans pour l'élection de Bolsonaro. Et c'est une image à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Une bagarre au tournoi de tennis d'Orléans. Ça s'est passé hier après-midi entre le français Corentin Moutet et le bulgare Adrian Andreev. Surréaliste, hein, Gaël Biche pour RMC.
Oui, la scène est aussi rare que surréaliste. Alors que Corentin Moutet et Adrian Andreev viennent de passer 3 heures sur le court, les deux joueurs ont une vive altercation au moment de la traditionnelle poignée de main. Un coup d'épaule, puis un léger accrochage physique avant que l'arbitre n'intervienne pour séparer les deux joueurs. Dans un message posté sur son compte Instagram dans la soirée, Corentin Moutet affirme d'abord ne pas s'excuser avant de livrer sa version des faits. Adrian Andreev l'aurait insulté à 2 reprises en le regardant dans les yeux. Des choses inacceptables, selon le français de 23 ans. Corentin Moutet précise aussi que le bulgare l'aurait menacé et lui aurait demandé de l'attendre à la sortie du court. Le français, battu 2-7-1, aurait ensuite cherché son adversaire qui se serait finalement caché. « Je t'attends avec impatience. On pourra discuter calmement », conclut-il son message.
Et puis le Quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
Oui, c'est ça, ce sera ce soir, 20h15, en nocturne, sur RMC Découverte, le 11, le 14. Voilà les pronostics ce matin d'un Dream Team des courses RMC, favori outsider, le 11, Horus de Romaz, le 14, Harry Carissé.
C'était le journal de Quentin Vinet, 7h37, c'est l'heure de jouer, parce qu'il vous reste, eh ben, c'est juste aujourd'hui, votre dernier jour, pour gagner vos places pour Tunisie-France, parce que le gagnant sera tiré au sort. Aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire, RMC s'occupe de tout, on vous offre vos places pour Tunisie. France le 30 novembre prochain, le vol, l'hébergement, vos places pour le match. Donc bref, on s'occupe de tout. Il vous suffit de vous inscrire. Vous envoyez RMC au 7-32-16. RMC au 7-32-16. Tirage au sort tout à l'heure.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Défaite militaire, contestation civile. Vladimir Poutine tente de reprendre la main aujourd'hui avec un grand discours depuis Moscou pour officialiser l'annexion de 4 territoires ukrainiens. Bonjour Michel Goya.
Bonjour.
Vous êtes historien, ancien colonel. On va tenter de comprendre avec vous si ce discours de Vladimir Poutine va changer quelque chose au conflit en Ukraine. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe.
7h41 sur RMC, bon réveil à tous.
L'invité du jour.
C'est vous, Michel Goya, rebonjour. Vous êtes historien militaire, vous êtes ancien colonel des troupes de marine. Il y aura tout à l'heure un discours qu'on nous annonce fleuve de Vladimir Poutine. Ce sera à 14h depuis Moscou, 14h heure française. Il doit officialiser l'annexion des territoires, des 4 territoires, hein, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijja. Après les défaites militaires, il faut s'attendre à quoi là dans ce discours ?
Alors c'est un discours annoncé effectivement comme volumineux, donc il y en aura à peu près pour tout le monde dans ce discours. Il faut s'attendre à probablement d'abord un discours de victoire et un discours de justification des sacrifices passés et en expliquant que ces sacrifices n'ont pas été vains pour la Russie, qu'ils ont permis de libérer entre guillemets un certain nombre de territoires, un certain nombre de Russes du joug ukrainien et que voilà et que maintenant la Russie accueille avec je dirais avec plaisir, évidemment, tous ces nouveaux Russes, tous ces gens qui ne demandaient qu'à rejoindre la mère patrie. Donc il y aura, oui, bien sûr, on va faire une sorte de point de situation.
Avec une sorte de grande cérémonie,
oui, une fête
d'officialisation du fait que ces territoires rejoignent, entre guillemets, la Russie. Fait. Michel Goya, est-ce que c'est un tournant?
Oui, enfin, c'est toute la période est en tournant et ce discours va effectivement être le point de situation de ce tournant. Le tournant, ce sont ces annexions. Ce tournant, c'est la mobilisation des forces de la Russie. C'est l'entrée en guerre en réalité, hein, véritable.
Jusqu'alors, il s'agissait juste d'une intervention armée. Voilà.
Exactement.
Ce qu'il disait. Il n'avait pas utilisé en effet tous les moyens de la guerre.
C'était une sorte d'opération extérieure assez lointaine de la société russe. plus, hein, qui regardaient ça, un peu un spectacle, qui était maintenu très largement à l'écart. Maintenant, à partir du moment où ces terres deviennent terres russes, tous les combats qui s'y déroulent se déroulent sur la mère patrie, se déroulent sur la Russie. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'opération spéciale, il faut l'oublier, et ce sera de fait, ou même de droit, si la Douma le déclare, ce sera une guerre.
Dans les faits, ces territoires-là, ils vont devenir officiellement russes,
oui.
Sous occupation russe, avec un maintien de l'ordre et de la répression important vis-à-vis des populations, ou est-ce que ceux qui sont restés dans ces populations, de fait, sont ceux qui acceptaient le joug russe ?
Non, alors vous avez des situations un peu différentes. C'est-à-dire que dans les républiques séparatistes de Donetsk et de Luhansk, il y avait déjà eu une forme, j'allais dire, d'épuration ethnique. Mais enfin, il y a eu déjà beaucoup de transferts de population. Et on est maintenant sur une terre qui est très largement pro-russe. Mais dans les autres territoires occupés, ce n'est pas encore le cas. Donc ce qui va se passer, c'est comme en Crimée en 2014. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, vous allez avoir une russification assez radical de...
C'est quoi une russification ?
C'est l'imposition de la langue russe, c'est l'imposition de la monnaie, du rouble, c'est forcer les habitants à prendre des passeports, à échanger leurs passeports ukrainiens contre des passeports russes. Voilà, ils deviennent des citoyens russes forcés, hein, mais à part entière.
Quand on a constaté ces jours-ci, et encore vraiment dans les dernières heures, un exode de ces hommes russes qui quittent avant de ne devoir être mobilisés, est-ce que ça veut dire que la population russe a changé de point de vue ? Ou est-ce que nous, on est un peu illusionnés par ces images qu'on montre à la télévision de ces files à la frontière de gens qui partent avec un petit baluchon et qui quittent à pied le territoire russe ?
Il faut noter le caractère un peu extraordinaire de cette situation. Je n'ai pas d'exemple historique où on déclare une mobilisation pour défendre la patrie et puis vous avez plus d'hommes qui s'enfuient que ceux qui sont en Ukraine ou que ceux qui sont mobilisés. Ce qui est assez extraordinaire, c'est comme si en France il y a 100 000 hommes avaient quitté en quelques jours le pays pour échapper à leurs obligations militaires. C'est un phénomène assez extraordinaire, mais qui montre surtout non pas que la population a forcément changé d'avis, mais c'est qu'elle était à l'écart de cette guerre. C'est-à-dire maintenant, à partir du moment où vous déclarez même une mobilisation partielle et que cette mobilisation partielle peut déjà toucher tout le monde, mais surtout le plus important, c'est que vous avez déjà franchi le pas. C'est-à-dire qu'on commence à mobiliser et à partir de là, il n'y a pas de limite. Et ça veut dire que toutes les familles, en réalité, sont concernées. Peut-être pas immédiatement, mais elles le seront sans doute.
Et comme vous le dites, depuis cette semaine, les familles russes sont donc concernées désormais par cette guerre, dont elles étaient tenues jusqu'alors à l'écart. Une question très technique, colonel Goya, est-ce que dans ces quatre territoires dont on parle et qui seront officiellement rattachés à la Russie tout à l'heure, la guerre continue ? Ou est-ce que ça veut dire que c'est en quelque sorte gelé sur le terrain militaire ?
Ah ben, la guerre continue, bien sûr, parce que du côté ukrainien, ça ne change rien.
Ils ne vont pas lâcher.
Non, ils changent. Non seulement ils ne lâchent rien, mais je dirais même qu'ils accentuent encore la pression. Ils sont à l'offensive, ils sont sur le point, dans les heures qui viennent, peut-être même d'infliger une défaite assez cinglante aux forces russes dans le nord du pays. Donc eux, non, au contraire. Politiquement, l'annexion ne change rien du point de vue ukrainien. Sont toujours des terres
sur le champ de bataille, ça ne change rien.
Ce sont des terres ukrainiennes à libérer, et sur le champ de bataille, ça ne change rien. Au contraire, mais il y a une sorte de course de vitesse qui est même engagée de ce côté-là entre les forces ukrainiennes qui ont le dessus, hein, très très clairement, qui doivent avancer au maximum avant la météo, c'est-à-dire la Rasputitsa, les pluies d'automne qui vont geler pour le coup. Les opérations et puis ensuite peut-être les effets de cette mobilisation en Russie sur le terrain en Ukraine qui va forcément prendre un peu de temps. Mais non, du point de vue ukrainien, rien ne change et au contraire, on continue
sur la volonté de récupérer ces territoires. Michel Goya, merci d'être venu aujourd'hui sur RMC pour faire le point et on attend donc ce discours de Vladimir Poutine à 14h heure française. Il est 7h47. Retour en France avec d'ailleurs l'une des conséquences aussi indirectes de ce conflit, même si ça n'est pas la seule raison. L'inflation, les prix de la vie, nous sommes le 30 septembre et depuis ce matin, vous êtes nombreux à témoigner. Est-ce que vous avez réussi à boucler votre mois ? Sabine nous a appelé au 32-16. Bonjour Sabine.
Oui, bonjour Apolline, bonjour toute l'équipe.
Sabine, vous êtes intérimaire en Isère, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Vous en êtes où, là, en ce 30 septembre ?
Je suis à plus 154 euros.
D'accord. Il vous reste 154 euros sur votre compte ?
Voilà. Okay. Et donc, il faut que je tienne jusqu'au 12 ou 15.
Vous êtes payé au milieu du mois ?
Ah oui, oui, oui. Les intérimaires, c'est comme ça. C'est toujours au milieu du mois. Donc là, il faut que j'arrive à vivre avec à peu près 3 euros par jour, quoi.
Il vous reste 154 euros pour tenir jusqu'au milieu du mois d'octobre. Sabine, quand vous dites vivre avec 3 euros par jour, comment vous faites ?
Eh bien là, hier, je me suis fait une petite fleur. J'ai acheté 2 steaks hachés à moins 30%.
D'accord.
Et donc, ça va me faire 4 pas.
Vous les coupez en deux ?
Oui.
D'accord. Et vous dites que vous vous êtes fait une fleur ?
Oui.
Ouais, parce que tout d'un coup, vous allez pouvoir mettre un peu de viande.
Oui.
Ils vous ont coûté combien les steaks hachés ?
4,50 euros.
Donc ça fait, si vous les coupez, ça vous fait 2,25 euros le steak et vous le coupez en deux, ça vous fait, ça vous fait un peu plus d'un euro pour un demi steak haché. Vous l'accompagnez de quoi, du coup, Sabine ?
Avec des pâtes et puis de la margarine parce que le beurre, il est très cher.
D'accord. Et Sabine, ça fait longtemps que vous faites attention comme ça ?
Je suis obligée parce que j'ai eu un Covid long.
Ouais.
Hein, et donc, j'étais en arrêt maladie, au mois de mai.
Ouais.
Hein, pendant 15 jours. Et la Sécurité sociale m'a payé que mi-juillet.
C'est ça.
Et donc, j'étais à découvert. Donc, il y a eu les frais de la banque et tout ça. Hein,
ça.
Et donc, là, je travaille. Pour payer les frais de la banque.
Oui, en réalité, c'est même plus pour gagner votre vie, c'est pour payer les frais supplémentaires qu'ont engendré toutes ces attentes. Sabine, merci de votre témoignage ce matin. Et je retiens que quand vous achetez 2 steaks hachés, ça vous tient 4 jours et qu'encore, vous le dites, comme si vous vous étiez fait une fleur. Voilà ce que c'est aujourd'hui d'acheter sa viande. Merci Sabine qui nous appelait donc de Four en Isère. Vous nous appelez au 3216 pour témoigner aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à boucler le mois ?
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Ce n'était pas arrivé depuis 6 ans. Le nombre de naissances en France est reparti à la hausse. Et vous allez voir que c'est lié au confinement. Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin. Le bonus RMC.
Le bonus de Charles avec l'événement culturel du jour, la sortie de FIFA 23.
Eh oui, on a tous quelques copains qui vont disparaître à partir de ce week-end, agrippés à leur manette. Car FIFA, c'est le carton chaque année. Alors je pourrais vous donner tous les chiffres. Plus de 300 millions d'exemplaires écoulés depuis le lancement de la franchise. 89 millions de parties disputées chaque jour. 700 équipes, 19 000 joueurs modélisés. Mais les vrais chiffres que les fans comme Nicolas Poincaré attendent, ce sont les notes. Et oui, chaque joueur a une note sur 100 dans le jeu qui correspond à son talent, à sa valeur. Alors Apolline, je sais que la question vous brûle les lèvres.
Ça me brûle
qui
les lèvres.
Qui a la meilleure note ? Eh bien, ils sont 5. 5 joueurs qui ont la note de 91 sur 100, dont 2 Français, un Cocorico, il y a Karim Benzema et Kylian Mbappé. Avec eux, on trouve Messi, De Bruyne et Lewandowski qui complètent donc ce top 5. Juste en dessous, Cristiano Ronaldo, il est redescendu à 90. Et comme tous les ans, ces notes vont évidemment faire polémique. Quant au jeu en tant que tel, que vaut-il ? Je ne l'ai pas encore testé, mais selon la rédaction d'RMC Sport, c'est l'un des meilleurs opus, l'une des meilleures cuvées depuis des années. Donc promis, dès que je l'ai
à peau... Pas beaucoup voir mes fils ce week-end.
On se fait une partie 1 de ces 4.
On se fait un promis. FIFA. Il est 7h51.
EA Sports, it's in the game. RMC, Apolline Matin.
7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas Poincaré. La natalité est repartie à la hausse en 2021. C'est le principal enseignement d'une étude de l'INSEE publiée hier.
Oui, 742 100 bébés sont nés en France en 2021. Ça représente 2033 naissances par jour en moyenne dans les maternités françaises. C'est une augmentation d'environ 1% par rapport à l'année précédente, soit tous les jours une vingtaine de bébés en plus qu'en 2021. Dit comme ça, une vingtaine de bébés, c'est pas très spectaculaire, mais ce qui est marquant, c'est que c'est une inversion de tendance. Depuis 6 ans, le nombre de naissances était en baisse constante, une chute de 10% entre 2014 et 2020. 2021 marque donc un coup d'arrêt à cette tendance à faire de moins en moins d'enfants.
Et ce qui est assez marrant, on peut le dire, c'est que c'est quand même une tendance qui est liée au confinement.
Exactement. Pendant les confinements, les Français ont conçu moins d'enfants, mais à la fin des confinements, ils se sont rattrapés. L'année 2021 va être donc très mal commencé, puisqu'en janvier, en février, on était 9 mois après le premier confinement du printemps 2020. Le nombre de naissances a alors atteint un plus bas historique, moins 10% par rapport à l'année précédente. Ça s'explique par le climat d'inquiétude qui régnait alors, peu propice au projet d'avenir. C'est aussi dû au fait qu'un certain nombre de couples ont pu se retrouver séparés par l'interdiction de se déplacer. Mais 9 mois après la fin de chacun des deux confinements, on a assisté donc à un vrai rattrapage avec un pic des naissances en septembre 2021, 9 mois après la période de Noël qui avait marqué la fin du deuxième confinement. Les Français soulagés avaient donc fêté ça sous la couette.
Et ce sont en particulier les mères les plus âgées qui ont fait plus de bébés.
Oui, parce que les phénomènes qu'on vient de décrire, donc les impacts des confinements, sont plus marquants chez les jeunes mères que chez les plus âgés. On imagine que les jeunes couples étaient plus inquiets vis-à-vis de l'épidémie et sans doute aussi plus touchés par les situations d'éloignement. Il y a chez les plus jeunes plus de couples que l'on appelle non cohabitants et donc qui ont pu être séparés par les confinements. Résultat, sur l'ensemble de l'année 2021, le nombre de naissances est en baisse de 5 à 8% chez les femmes de moins de 25 ans. Il est en revanche en hausse chez les femmes de plus de 30 ans et même en très forte hausse chez les femmes de plus de 40 ans. Si bien que l'âge moyen des femmes qui accouchent continue d'augmenter, il est désormais de presque 31 ans, 30,9 pour être précis.
Est-ce qu'on sait quelle est la part des familles issues de l'immigration ?
Alors l'INSEE ne fait pas de statistiques ethniques ni religieuses, on le sait, mais l'Institut de la Statistique peut compter le nombre d'enfants nés de parents eux-mêmes nés à l'étranger. La part des bébés dont les deux parents ne sont pas nés en France a baissé d'un point, 16% contre 17% il y a 2 ans, et logiquement, la part donc des enfants ayant deux parents nés en France, cette part a augmenté, passant à 68% contre 67% auparavant.
Enfin, est-ce qu'on sait si cette augmentation des naissances de 2021 se poursuivra en 2022?
Eh bien, on a les chiffres uniquement pour les 8 premiers mois de l'année. On a de nouveau un pic en février, 9 mois après la fin du troisième.
En fait, il faut confiner pour se libérer ensuite.
Sauf que ça marche de moins en moins, puisque à la fin du troisième confinement, l'effet a été très bref. Et depuis, on est plutôt sur une tendance basse, c'est-à-dire la tendance de 2020. On ne peut pas encore faire de pronostic pour savoir si l'embellie de 2021 va se poursuivre ou pas.
C'était les explications de Nicolas Poincaré, 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.